Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
C'est parti. Bonjour, ici Erdivoy pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 et aussi en podcast sur le site internet rdwa.fr. Au studio aujourd'hui pour représenter la petite agitée basée à Die, au 16 rue Émile Laurent. Donc au studio, nous sommes en compagnie de Élise, bonjour.
Bonjour.
Et de Tiphaine, bonjour.
Coucou.
Toutes les deux, donc, vous nous parlez de cette librairie, un peu maison d'édition aussi, et cette ouverture qui s'opère actuellement, pour vous, c'est un bol d'air de nouveau ?
Après le confinement, oui. Après le deuxième confinement, parce que nous, on a ouvert juste après le premier confinement, en plus. Donc, on a une fraîcheur dioise dans ce qu'on propose dans la librairie depuis le mois de juin. Donc, ce confinement, ce deuxième confinement, c'était un peu le test psychologique de savoir si on avait envie de continuer ou pas dans les circonstances actuelles. Donc, ouais, un bol d'air.
Élise ?
Oui, moi, je trouve que c'est une deuxième réouverture et j'ai l'impression d'avoir encore plus envie d'être là, encore plus envie de mettre plus de choses, d'élargir un peu notre collection. Voilà.
La librairie que vous avez ouverte propose quel type de littérature principalement ?
On a plusieurs, c'est assez large, on a plusieurs volets. On a des cartes postales, des fanzines, de la micro-édition, de la BD, de la poésie, pas trop de romans.
Les livres qu'on propose, c'est des petites éditions, des éditions indépendantes. Ils parlent de sociopolitique aussi. On a un infokiosque, des autocollants, des revues. C'est tout ce qui touche au papier avec l'envie de se faire une focale sur le faire soi-même, mais aussi sur le type de diffusion. C'est-à-dire que les livres qu'on vend passent pas par des grosses maisons d'édition ou par des gros diffuseurs. Donc c'est majoritairement vraiment l'idée d'être sur du présentiel, justement, quoi. D'essayer de passer en direct avec soit les auteurs, soit les éditeurs, de mettre en avant des petites éditions qui sont faites dans le coin. Et puis de travailler, nous aussi, sur nos créas et de se donner un peu l'occasion d'avoir un espace de vente de ce qu'on fabrique, nous, dans notre atelier, avec nos petites mains.
Donc, en quelque sorte, vous avez évité ces soutiens de certaines maisons d'édition pour l'ouverture de librairies. J'ai connu cette expérience, pas personnellement, mais de personnes, en ouvrant leur commerce, se retrouver avec des stocks d'édition qui ne sont pas forcément de leur envie, tout simplement. Et que finalement, ce sont des livres qui sont invendables, quelque part, puisqu'ils ne correspondent pas aux critères de cette librairie. Ça, c'est des systèmes qui permettent pour réduire à néant une librairie qui s'ouvre par ce qu'elle propose ou ce qu'on l'oblige à proposer aux clients.
Moi, je dirais qu'on a un modèle un peu particulier qui est assez intéressant, en tout cas à force de le vivre, puisque l'association, elle s'est créée il y a 6 ans, en 2014, sous le nom La Petite Agitée, avec un projet de bibliobus, en fait, de bibliocaravane. Et du coup, à la base, ce projet, il est d'opérer une diffusion sur le territoire en proximité avec les gens. Donc la caravane, c'était vraiment un module mobile qui permettait d'aller sur les places de village, dans les festivals, avec le temps de lire, se donner le temps de toucher le papier, le temps de prendre un livre et d'en discuter avec la personne qui est à côté. Et du coup, depuis 6 ans, il y a eu plein de choses différentes qui se sont faites. Et cette librairie aujourd'hui qu'on a ouverte à Die, elle est un peu le résultat d'un voyage qui s'est fait avec cet outil papier, cet outil mot et cet outil dessin. Donc nous, l'opportunité qu'on a d'être sous un modèle associatif, c'est de faire absolument ce qu'on veut, Pour l'instant, c'est un projet qui est bénévole et qui est vraiment avec une focale sur ce qui nous passionne. Et nous, ce qui nous passionne, c'est effectivement déjà sans contrainte, pouvoir avoir le choix et dans notre comment on utilise notre temps et comment on se sert des outils qui existent pour le partager avec d'autres. Donc c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux grandes maisons d'édition, nous on n'en a pas réfléchi tant du côté du commerce, mais plus du côté de ce qui nous passionne. Nous on aime bien faire petit, on a l'impression d'être un peu des clandestines dans notre atelier, à mettre une bûche dans le poêle et à fabriquer des gravures, à fabriquer des carnets, à fabriquer des opuscules de poésie, mais on fait du 47 exemplaires, du 12 exemplaires. Et le prétexte d'avoir un espace de vente et d'élargir pas que à ce qu'on fait, mais aussi du coup de pouvoir travailler avec des éditeurs qui vont plus être grand public entre guillemets, comme les éditions Cambourakis, les éditions Amsterdam ou des éditions plus locales comme Le Monde à l'envers ou les Trois Petites Truites Éditions, c'est de se donner l'occasion vraiment de continuer à éprendre le temps et être avec les gens, le papier, les mots, les dessins.
Le choix que vous proposez dans votre librairie, c'est étoffé justement par cette expérience de cette librairie itinérante et qui correspondait au fur et à mesure à un réel intérêt des lecteurs.
Bah oui, déjà il y avait donc ce petit choix, cette petite collection de la librairie mobile qu'on a un peu agrandie. Parce que avant on était un groupe de personnes qui a changé. Maintenant, on se retrouve que toutes les deux. On n'a pas du tout les mêmes intérêts. On en a d'autres choix. Du coup, on a choisi d'autres maisons d'édition. On s'est orienté plus dans la BD, peut-être aussi. On a agrandi le volet BD, volet jeunesse. La micro-édition, surtout, aussi. Je crois qu'on n'avait pas trop ça avant. Et voilà.
Il faut dire qu'on est un groupe scindé en deux, parce que la librairie mobile existe toujours. Donc, il y a tout un travail de recherche d'éditeurs qui est fait par deux acolytes qui sont plutôt vers le Crétois et qui continuent tant bien que mal, vu que là, en ce moment, les événements sont interdits, à proposer des tables itinérantes sur les festivals, les différents événements, et qui sont essentiellement des éditions indépendantes, beaucoup tout ce qui est sociopolitique, des volets féminisme autour de l'écologie ou autour de sujets thématiques de réflexion.
Par exemple, vous pouvez toujours opérer une présence sur des événements tels que écologie au quotidien, on pourrait supposer, ou d'autres événements.
Bah oui, je pense que, enfin, on n'y a pas trop réfléchi, mais je pense que on est ouverte aussi à ça. Peut-être qu'aussi, on a cette image-là de la librairie fixe, la librairie mobile, mais on peut mélanger ça et nous aussi être mobile de temps en temps. Et justement, là, par exemple, cette fin d'année, on va faire les marchés de Noël, justement, avec des éditions de la librairie, nos propres créations.
Vous avez des nouvelles sur ces fameux marchés de Noël ? Est-ce qu'ils semblent réémerger ? Ou alors, encore récemment, j'entendais qu'ils avaient maintenu les annulations. Comment vous le voyez, ça ?
On s'est un petit peu renseigné à la dernière minute, parce qu'on ne savait pas si ça allait réouvrir, enfin, comme tout le monde, j'imagine. Mmh. Et on a vu sortir par-ci, par-là, un petit marché de Noël à la Calamine, à Mirabel. Donc c'est un atelier de métallerie où il va y avoir le 19 janvier...
Décembre.
un petit marché, donc toute la journée de 10h à 18h.
Et, À pied gros.
Sûrement à Luc aussi, il y aura un marché de Noël.
Après, les marchés n'ont pas encore complètement repris. Ils attendent les annonces du gouvernement. Donc nous, en fait, on est aussi sur la sellette là-dessus. On attend les mesures, comme tout le monde, quoi. Des autorisations pour vendre des livres.
Vous parliez d'édition. Vous êtes vous-même donc à fabriquer des livres. Comment ça se passe d'ailleurs pour un artiste ou écrivain local ? Est-ce qu'il y a une possibilité auprès de vous de pouvoir éditer ? Si affinité, hein, je suppose aussi.
Bah pour l'instant, on est plutôt en train de s'auto-former, je dirais. Donc on a chacune un peu des... Moi, je suis plus sur la gravure, Tiffany plus sur le collage. Moi, je fais beaucoup de dessins depuis toujours, donc c'est quelque chose que je connais. Après, l'écriture, c'est plutôt Tiffany qui est sur ça. On aimerait, en fait, avoir un atelier qui fonctionne et pouvoir accueillir des gens, pouvoir leur imprimer leurs ouvrages à eux. Mais pour l'instant, c'est plus, on se focalise plus sur notre travail à nous.
Du coup, dans les outils qu'on utilise, il y a du coup la sérigraphie, la linogravure. Et dans les formes d'assemblage, on s'autoforme à la reliure au fur et à mesure. Et ce qu'on fait, du coup, on le fait aussi tranquillement, disons quoi. Donc, voilà.
Pour ça, vous avez un atelier de pratique qui se trouve à l'arrière de la boutique ?
Non, on a un atelier extérieur à la boutique et... ça fonctionne bien comme ça, mais on aimerait aussi peut-être scinder les deux.
Rassembler les deux.
D'autant que pour vous, la rue Émile Laurent n'est pas forcément propice à cette activité de commerce.
C'est vrai que du coup, là, on partage un local à plusieurs associations. Du coup, c'est un local qui est porté par l'association Parallèle qui propose des cantines de soutien aux personnes exilées tous les mardis midi. Il y a la Gratiferia qui est portée par l'association Les Décroissants de Thunes qui ouvre tous les mardis quand c'est possible. Et il y a aussi des permanences administratives et juridiques d'accompagnement pour les personnes exilées et des cours d'arabe. Et nous, voilà, on partage le côté boutique avec la Gratiferia. Pour l'instant, on est ouvert, on était ouverte le samedi, jusqu'ici, tous les samedis. Et là, sur la période de décembre, on va ouvrir aussi les mercredis. Du coup, les mercredis et samedis de 9h à 13h et de 14h à 18h. Et c'était une chouette expérimentation depuis le mois de juin. Mais nous, en fait, on attaque un peu la dernière ligne droite de cette première phase, peut-être quatrième phase d'expérimentation, mais cette première phase d'expérimentation en boutique fixe. Puisque à la fin du mois de décembre, on quitte le partenariat avec l'association La Parallèle. On laisse la boutique à d'autres activités pour se concentrer sur la recherche d'un nouveau local, effectivement mieux situé que la rue Émile Laurens, et aussi peut-être avec plus de place pour pouvoir accueillir plus aisément nos activités. Pour l'instant, c'est super chouette. On a eu cette occasion-là, avec un partenariat avec d'autres assos, avec un loyer pas trop cher. Mais bon, voilà, tous les meubles sont sur roulette. On a l'impression d'être dans une caravane. On déplace tout, il y a beaucoup de manutes. Et c'était vraiment très bien de pouvoir le tester.
C'était un bon essai, ouais.
Et maintenant, on a envie de se poser vraiment. On se dit que cette activité, on a vraiment envie de la porter. On a envie de trouver un pignon sur rue, avec peut-être un peu plus de soleil, un peu plus de passage. et puis, voilà.
Vous avez des pistes pour un nouveau local, sans pour autant le citer hein.
Non.
Donc actuellement, vous lancez un appel à rechercher un local, quelque part, d'Andy ou
pourquoi
ailleurs
pas, pourquoi pas, ouais. On cherche à Die, après on se laisse l'opportunité de chercher sur un périmètre un peu plus large. Après Die, ça nous branche bien, on aime bien l'ambiance qu'il peut y avoir entre le mélange de personnes au niveau local qui habitent le territoire. On est super contente d'accueillir des têtes qu'on connaît. Il y a des personnes qui viennent à la librairie depuis l'ouverture presque tous les samedis. Oui. Et c'est hyper agréable de pouvoir vraiment avoir cet espace comme un espace de discussion avec des gens qu'on croise sur le long terme. Et après, il y a tout le côté l'été, la vivacité de la ville. Les autres commerçants aussi, parce qu'il y a déjà il y a d'autres librairies qui existent. Mais on se sent vraiment comme en complémentarité.
Voilà, c'est ça.
Nous, on est artisanes et on est vendeuses, on fait du commerce, mais on est en association, on réfléchit à changer de structure. Et il y a un sens assez fort à être ici.
Au-delà de vous deux et des personnes qui vous ont soutenu depuis le départ, vous êtes à peu près une combien de personnes à tourner autour de la petite agitée?
Ah ben on est quatre.
Oui, c'est ça, on est quatre.
On est deux sur la librairie fixe et deux sur la librairie mobile.
Voilà, pour l'instant c'est ça.
Et d'ailleurs, cette librairie mobile qui circule encore aujourd'hui,
oui,
malgré le confinement,
Quand ça sera possible.
Quand ça sera possible. Mais et son secteur d'activité se trouve sur quel territoire ?
Bah, ils sont basés autour de Cré, mais après, je pense qu'ils n'ont pas de limite de déplacement, quoi.
Mais comment peut-on prévoir leur passage dans tel lieu ? Est-ce que c'est possible, ça, au niveau de l'information ?
Ça, je crois que non, au niveau de l'information, c'est une surprise à chaque fois.
Aussi de ce qui vous anime toutes les deux pour la librairie. Élise, vous avez un amour pour le papier ?
Surtout pour le dessin, du coup, ça va avec le papier. Moi, j'aime beaucoup la gravure. Et c'est un peu ce qui m'a motivée à faire de l'édition, à faire des carnets. Et du coup, en ce moment, à la librairie, du coup, il y a une expo de mes dessins, de mes gravures, et un petit espace de vente aussi. Voilà, vous pouvez venir voir. Comme ça, je pourrais mieux vous en parler.
Vous travaillez sur n'importe quel type de support papier, peu importe sa qualité.
Alors là, ça c'est sûr que autant je peux imprimer sur du très beau papier, si j'en ai, ou des filtres à café, du carton. J'aime bien aussi l'objet livre, l'objet qu'on peut créer avec un dessin. C'est pas forcément un dessin en aplat, mais ça peut être aussi une boîte, un dépliant, un peu comme un livre d'art.
Vous détournez certains objets ou des documents imprimés aussi ?
Non, pas pour l'instant.
C'est-à-dire que les emballages, tous ces papiers-là, ne vous intéressent pas au niveau de son aspect carton, au verso par exemple ?
Si, j'aime bien, mais bon, j'ai pas eu l'occasion encore, mais c'est vrai que je récupère par exemple les papiers d'emballage, tout type de papier.
Et vous travaillez donc avec une presse, je suppose,
oui.
Puisque vous opérez
ça dépend des formats.
De la linogravure.
Je ne fais pas que de la lino, je fais aussi du bois et du cuivre, du plexiglas. Là, je suis un peu restreint au niveau de la taille parce que j'ai une petite presse. Du coup, quand c'est des tout petits formats, j'imprime à la main encore avec le dos de la cuillère. Et sinon, c'est maximal format A4. Voilà.
Tiphaine, par quelle pratique te retrouves-tu dans cette aventure de la petite agitée ?
Avec Élise, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Moi, le dessin, tout ce qui est visuel, le manuel, ça m'a toujours un petit peu fait peur. J'ai l'impression d'être nulle à ça. Et quand j'ai vu le travail d'Élise, que j'ai vu ce qu'elle faisait, ce qu'elle fabriquait, parce qu'elle ne le dit pas, mais elle fabrique aussi des costumes, des petites marionnettes, elle a vraiment un don pour assembler, rendre fou. Il y a un univers complètement fou. Et du coup, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais plutôt branchée sur un plateau de théâtre. Et je lui ai proposé de travailler avec un rétroprojecteur. Et pendant du coup, 2 années, on a créé et diffusé 2 spectacles avec un mélange entre des textes que j'écrivais une scénographie inventée par Élise, et du coup avec un travail au plateau de comédienne pour moi et un travail au plateau de dessinatrice sur rétroprojecteur avec Élise. Et c'est à partir de là où on s'est rendu compte que nos différents champs de compétences étaient hyper complémentaires, qu'on se dit souvent, oh là là, ce que tu fais, moi je serais incapable de faire ça. Il y a une grande confiance qui s'est installée dans ce qu'on aime faire ensemble et dans ce qu'on n'aime pas de l'autre aussi. On arrive assez bien à jongler et à avancer comme ça. Et dans le théâtre, l'aspect spectacle vivant, c'est génial parce qu'il y a une rencontre avec le public, il y a un message qui est diffusé, il y a de la force, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'on donne sur scène, il y a tout ce que les gens reçoivent. Et nous, on a créé des formats de spectacle de 30 à 50 minutes, mais avec une matière tellement énorme qu'on avait besoin de l'inscrire sur du papier. Et c'est là où on a commencé, un peu de manière complètement speed et rapide, en se posant pas trop la question de qu'est-ce qu'on était en train de faire, à fabriquer des petits livrets avec les textes qui nous inspiraient pour notre spectacle. C'est là où on a sorti notre premier petit livret en 2017 qui s'appelle Bribe Hybride, qu'on a fait donc à partir des textes du spectacle, des textes qui ont inspiré le spectacle et des dessins du spectacle qu'Élise propose. Et à partir de là, on s'est rendu compte que l'une et l'autre, on avait vraiment cet amour, moi beaucoup pour les mots, Élise beaucoup pour le dessin, et du coup cette complémentarité, on a eu envie de l'utiliser. Et c'est génial parce que du coup, moi qui étais très peu encline à faire du manuel, ben depuis cette rencontre, j'ai osé et maintenant je me suis mise à faire du collage. Beaucoup dans une pratique qui est toute petite, en fait ça prend beaucoup de temps, et là j'imprime mes premiers j'ai imprimé donc des premières séries de cartes postales avec le thème des résolutions 2021, donc dans l'idée un petit peu d'essayer de sortir de cette période là avec de la joie et de l'espoir dans la tête. Et moi c'est par le collage du coup et le visuel que je le fais. Voilà, j'ai une carte résolution 2021 dans la main qui dit refaire le monde. Et puis, des petits carnets aussi que je fabrique à la main à partir de papier de récup et de ces collages. Donc, c'est vraiment ça qu'on a aussi envie de diffuser dans notre espace. C'est cette lenteur qu'on a appréciée, nous, à prendre ensemble, à faire les choses, à faire avec qui on est, en fait.
Tiphaine, l'univers d'Ada représente quoi pour toi ?
Extraordinaire. Moi, j'ai découvert la poésie par le surréalisme. Donc la passion du mot et le fait de passer de la phase de lectrice à j'écris un petit peu aussi, mais j'essaye de voilà, je le sors pas beaucoup parce que ça fait peur, et c'est le côté surréaliste moi qui me fait survivre. C'est aussi ce que j'aime dans l'univers d'Élise, c'est que sinon j'étouffe dans ce monde. Et du coup le fait d'être dans des imaginaires hyper fou quoi. D'ouvrir le champ des possibles le plus. Et là, aujourd'hui, moi j'avoue que le collage, ça m'a sauvée du premier confinement, de pouvoir me concentrer sur des nouvelles manières de voir le monde et pas le voir avec la réalité, même si on est obligé et que nous, c'est ce qu'on diffuse aussi. La réalité, ce monde hardcore, tout ce qui nous enferme dans nos rues, mais pas dans nos têtes en fait. Donc le surréalisme, puis il faut venir voir l'expo d'Élise parce que justement il y a un côté mélange végétal, animal, humain. On passe vraiment par des phases en regardant ces dessins qui sont bercés, alors je sais pas, par cet univers surréaliste et qui explose les frontières du réel.
La disparition des murs aussi.
Oh, on aimerait bien ça.
On veut s'enfermer entre quatre murs dans une librairie, mais on aimerait bien faire tomber les murs.
Ouais.
Et justement, Élise, comment es-tu venue, en es-tu venue à la gravure sous tous ces aspects ?
J'ai toujours fait du dessin. Et en voyage, en fait, j'ai rencontré une artiste qui m'a montré la gravure. Et du coup, j'ai appris avec elle, j'ai pu reproduire des dessins, c'est ça qui m'a plu au départ, en fait. Puis aussi l'outil de la gouge, de faire sortir le dessin d'une plaque, ou le geste de graver, c'est quand même assez dur, assez brut. Et le rendu aussi, visuellement, c'est pas du tout pareil qu'un dessin au stylo, c'est vraiment, ça sort de la matière.
Tu travailles au miroir quand tu graves ?
Non.
Et cet aspect de devoir créer à l'envers pour reproduire à l'endroit, est-ce que pour toi, il y a une intrigue ou un intérêt là-dessus aussi ?
ça m'a jamais trop perturbée, ça. J'ai l'impression que déjà, je vois les choses d'une façon tellement différente de ce qu'on pourrait voir en réalité. J'ai l'impression que ça m'a jamais perturbée, à part pour les écritures à réfléchir bien à l'envers.
D'ailleurs, les écritures qui sont proposées dans vos ouvrages sont constituées comment justement par linogravure ou xylographie?
Tu parles plutôt des couvertures de nos éditions ou...
Est-ce qu'il y a du texte dans vos,
oui,
ouvrages et comment vous les pratiquez?
En général, quand il y a des gros textes, on fait ça soit en riso, donc soit en photocopie. Et pour des couvertures, c'est sérigraphie souvent. Parce que la gravure, ça demande en fait tellement de temps en fait pour imprimer en gravure. Donc soit je fais une gravure et après on peut la reproduire en sérigraphie, ou sinon c'est des toutes petites éditions.
Et pour le texte, du coup, pour l'instant, on a travaillé en rhizographie avec un atelier qui se trouve en Ardèche.
Tu peux expliquer quel rhizome?
Et la rhizographie, du coup, c'est on peut dire un principe de sérigraphie mécanisée. Donc, si on regarde une feuille imprimée en rhizographie, on pourrait se dire que c'est de la photocopie d'imprimante basique ou offset. Mais en fait, c'est des systèmes de matrices qui sont fabriqués sur des carbones, ce qui fait que chaque impression demande une matrice unique et puis chaque couleur demande un passage, un peu comme dans la sérigraphie. Donc si on a 4 couleurs sur une page, on fait 4 passages, mais ça passe par une machine. Et l'avantage de la rhizographie, c'est que moi, je trouve que ça donne un aspect assez joli, mais c'est très subtil. Il faut vraiment avoir pris le temps
quand
de regarder.
Ça se voit, quoi.
Et ça coûte beaucoup moins cher. Après, c'est pas hyper développé. Il n'y a pas des masses d'ateliers de rhizographie qui existent. Et les machines, c'est pas très accessible. Ça coûte un peu cher. Mais du coup, nous, on a eu la chance de rencontrer une personne qui a l'atelier avec les machines de rhizographie qui nous a permis de faire ça.
Et d'ailleurs, dans les éditions qu'on diffuse, il y a pas mal de livres qui ont été édités en rhizographie. Et ça se voit vraiment, ça donne un aspect plus unique en fait à chaque page. Il y a comme un relief qui se crée. Les couleurs sont plus jolies, je trouve.
C'est plus marqué.
Oui.
C'est plus subtil. Mais c'est vrai que là, j'ai dans la main une bande dessinée des éditions du Monde à l'envers à Grenoble. Qui sont donc édites souvent aux ateliers Fluo. Et ils ont justement toute la technique de rhizographie. Et c'est vrai que le rendu en dessin, il est vraiment très subtil.
Ces ouvertures ou ces existences de type de librairie dont vous faites partie répondent à une exigence de client ou alors d'un besoin de découvrir d'autres univers pour les lecteurs ou des amateurs de bande dessinée?
Si j'ai bien compris la question, je crois que oui, les gens sont en demande visiblement parce qu'il y a des gens qui passent et qui sont très contents de découvrir des BD qu'ils n'ont jamais vus dans des librairies plutôt communes.
Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on a croisé pas mal de personnes qui elles-mêmes fabriquent.
Oui, c'est ça.
Donc soit c'est avec une imprimante, soit... des passionnés qui auraient rêvé faire de la sérigraphie. Du coup, il y a aussi les personnes qui sont hyper contentes d'un moment de s'arrêter, de discuter une demi-heure sur justement tout ce qu'on vient de dire. Et ce papier-là, et cette édition-là, et cette reliure-là, comment c'est fait?
C'est vrai que ça amène à ce questionnement-là. Du coup, je me dis que peut-être on doit avoir une focale plus sur l'édition, sur justement la qualité de l'ouvrage.
D'ailleurs, comment s'investit le coût d'une édition, d'un livre, entre l'achat du papier, du matériel aussi, que ce soit la linogravure ou d'autres types d'outils? Vous vous en sortez financièrement ou comment ça se passe?
Nous, on est bénévoles pour l'instant. On lance le projet et justement, cette phase de test, elle est... faites pour nous montrer si on est capable de porter ce projet-là tout en étant des entrepreneuses, c'est-à-dire tout en réfléchissant à tout ça. Mais pour l'instant, la manière dont on travaille, j'ai l'impression, c'est surtout d'essayer, même si ce qu'on édite, par exemple, ça nous prend du temps, d'essayer de le rendre accessible au niveau tarifaire, si on calcule par exemple le prix du dernier opuscule de poésie qu'on a fabriqué tout à la main, en fait on montrait à des prix de vente à 35-40 euros, si vraiment on calculait tout le temps de travail, le matériel et tout. Mais nous on décide plutôt des ouvrages comme ça de les vendre à 14-15 euros pour quand même faire vivre notre démarche et pas la garder que pour nous. Maintenant, l'objectif en ouvrant un nouveau local, c'est aussi de se permettre de rendre accessible en fait notre emploi du temps, de se donner le temps de pouvoir vraiment faire ça à plein temps. Et ça, effectivement, la logique, c'est de pouvoir rentrer dans un truc un peu plus entrepreneurial, peut-être sortir de l'association et réfléchir vraiment à comment trouver la stabilité. Et est-ce que aujourd'hui, on peut encore se dire soit libraire, soit éditrice dans un monde qui nous a considéré comme essentiel ces derniers mois, et c'est une grande question, et c'est pas trop une peur, en tout cas pas pour moi.
Non.
On est assez certaines de nous parce que voilà, si on y arrive, c'est bien.
Puis ça a été un bon essai ces derniers mois, ça nous a bien dit que il y avait de la demande et que les gens étaient contents de venir, et je pense que plus grand ça serait, il y aurait plus de gens. Je pense qu'on est assez sereine là-dessus.
En tant qu'association, vous percevez des soutiens financiers, de subventions en quelque sorte, ou vous vous démarquez de ce type de subventions ?
Pour l'instant, non, on n'a pas eu trop de subventions.
Il y a eu une subvention aussi dans la petite AGT, mais c'était vraiment au montage du projet de Bibliobus. La Carlo Écarlate a reçu un soutien de la région Rhône-Alpes à l'époque, c'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, pour le lancement du projet, ce qui nous avait vraiment, vraiment boosté. Et c'est peut-être une des. Je dis pas que la subvention est une des bases du fait d'avoir pu le faire ou d'avoir eu les moyens de le faire, mais c'est vrai que la première levée de fonds sur le projet Carlo Écarlate, elle a été hyper importante parce qu'on a pu investir dans du matos tout de suite. Mais sinon, nous, on est total indépendante, quoi. Même, en fait, même notre objectif de se rembourser ce qu'on met, ce qu'on investit, bon, bah, ce serait bien, mais indépendance. Autonomie.
Actuellement, mis à part l'adresse que vous avez citée au 16 rue Émile Laurent, quels sont les moyens de connaître un peu ce que vous faites
Eh ben, on a un blog avec la petite agitée. Je pense que c'est un bon moyen déjà de voir un peu les rendez-vous.
La petite agitée.éclablog.com. Donc, éclablog avec un K. C'est un blog mis à jour assez régulièrement. Sinon, on essaye de faire de la com et de mettre des petites affiches dans la rue. Mais voilà, quand on aura trouvé un nouveau local, on espère bien diffuser non seulement l'info. Et puis, si c'est possible, l'idée de ce local-là et du partage, on aimerait vraiment trouver un lieu dans lequel on ait la possibilité et on soit autorisé à recevoir des auteurs pour des lectures, organiser des petits concerts, des CD, des vinyles et des cassettes qu'on diffuse, parce qu'on diffuse aussi de la musique. Autoproduite et en faire un espace dans lequel ça soit possible d'avoir une espèce de tourbillon artistique, quoi.
Tiffaine, tu as pratiqué, comme tu disais, la radio, même à RDWA surtout. Un retour probable bientôt par le biais d'une émission sur ce que vous faites aussi ou proposez.
Peut-être des lectures, non ?
Ce serait bien. C'est vrai qu'on a fait notamment une émission pendant 2 ans avec un membre de la librairie mobile qui est passé, qui a été diffusé sur RDWA, qui s'appelait Variation, où notre amour de la lecture s'est transformé en amour de la lecture à haute voix, et où on proposait des thèmes tous les mois avec des extraits de romans, de brochures, donc poétiques et politiques. Maintenant, de là à revenir à la radio, ce serait bien. C'est sûr que la poésie, moi, je l'ai découverte grâce à la lecture à haute voix. Et j'adore écouter encore aujourd'hui sur RDWA ou sur RSF des lectures de textes. J'adore les moments où on se retrouve avec des amis pour se lire des textes. Et j'aimerais bien qu'on puisse en proposer quand ça sera possible de faire des événements publics. Mais ça demande du temps, tout ça. Le temps, il n'est pas extensible. Donc, on aimerait bien faire tout ça d'un coup. Peut-être, Yves.
Le spectacle vivant aussi, c'est en suspens, là, de façon de manière catégorique hein, actuellement, mais il y aura peut-être un désir d'y retourner.
Il est déjà là, le désir d'y retourner, et on en profite aussi dans ces moments-là. Bon, là, on est beaucoup sur la librairie, mais pour remettre à neuf un peu nos créations, et réparer les costumes, réparer les textes.
Dans ce cas-là, vous avez ce qu'il vous faut, justement, pour travailler le spectacle vivant? Ou alors, vous êtes demandeur aussi d'un espace de travail?
On trouve ce qu'il nous faut parce qu'on cherche et on se déplace. Mais c'est vrai que on aimerait avoir un autre endroit pour pouvoir le travailler.
Adi, ça manque un petit peu. Maintenant, c'est pas la priorité, étant donné qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer à faire de l'événementiel et du spectacle vivant comme on le faisait avant. Mais c'est vrai qu'Adi, on n'a pas beaucoup joué Adi, on a beaucoup répété Adi. On a répété au Tas de Fumier, à la Griotte, Adi. On a eu l'occasion de jouer à la Griotte aussi. Et c'est là où on a notre atelier
à la Forge aussi.
À la Forge, voilà. Mmh. Mais du coup, voilà, les créations, de toute façon, nous, on a un petit défaut. On peut dire qu'on a un petit défaut. C'est qu'on n'aime pas bien trop travailler. On aime bien partager avec les gens. C'est vraiment, j'ai l'impression, en tout cas moi, un truc de focal. Du coup, nos spectacles, on les appelle spectformance. Donc, on travaille entre un mélange entre un spectacle et de la performance. On se laisse toujours l'opportunité de construire et tout en laissant de la place pour ce qui se passe, quoi. S'il se passe quelque chose avec le public, eh ben, il se passe quelque chose avec le public et ça existe. C'est arrivé sur la première créa, je me souviens, je sais plus où c'était, mais un spectacle qui doit durer 30 minutes, qui finalement va durer 40 minutes, parce qu'il y a eu 10 minutes de « waouh, ça a duré plus longtemps, on a profité du moment ». Et j'ai l'impression que dans notre travail en général, dans la petite agité, c'est ça, c'est se laisser l'espace d'accueillir la surprise. Qui sait, on aura peut-être la surprise de trouver un super local dans pas longtemps.
En attendant, vous êtes ouverte de nouveau et ces ouvertures sont de quelle journée?
Mercredi et le samedi, donc les jours de marché, de 9h à 18h, avec une pause le midi.
Eh bien, Élise et Tiphaine, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous parler de La Petite Agitée, qui se situe donc au 16 rue Émile Laurent à Adi, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au
Merci.
Revoir.
Merci.
Au revoir.
Raclée fait son randam, y'a pas de rancœur mais des raclures. Des coups de savate se dandinent pour atterrir sur ta figure. Mercurochrome et bétadine, tu badigeonnes tes blessures. Le pansement des blaireaux, banalise la bavure. Les lumières de la ville, j'irai les obscurcir. Et hurler sur les tombes, des faveurs de Sade. Pâlir de justesse entre la baraque à pied, le palais de justice et la barrière de Saint-Gilles. Alors j'use mes rebooks sur le boulevard Gambetta et me retrouve nez à nez avec un gros bêta. On dirait une photo dans un calendrier imprimé sur internet par la mère à Poutine.
Je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit et j'ai froid. Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit et j'ai froid.
Un parfum de navet envahit le navire. L'équipage au complet se réunit sur la place. On met les pompes devant, habitués au désir. Et on applaudit bien fort l'ampleur du désastre.
La chape narco, je t'éclipse de ce beat. Je m'accruse sur le kick, tel un geek sur son Mac. Et je mate le mec qui se maquille dans le hamac selon les critères de beauté que lui soumet son Mac. Mascarade en binaire, les rappeurs sont des chats qui courent vers la gloire avec élan d'un cul. Moi je reste statique dans mon 30 mètres carrés. Je mastique la rime sur le sol du plancher.
Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit, j'ai froid. Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit, j'ai froid. Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit, j'ai froid.
Ouais, toujours pareil, je trinque avec mon ordi. Je complexe et compresse logiciel Audacity.
Les fluides font des flaques, les flaques éclaboussent. Les flics qui passent leur temps à faire les fuites. Le sang de ma gencive se confond dans l'extrile. La liqueur du pêcheur au litchi transgénique, vocabulaire transmis par Louis Ferdinand. J'ai détruit le chromie et ses sortes d'artifice. Peu importe les fanfreluches qui décorent l'instru sur le beat durieux, j'assassine en deux-deux. Pas de thème, ça fait tâche, le rap strict et libre. Les violences idylliques d'une meute qui crache sur une piste de ski, fréquenter mes frigides. Mon humeur de poule, mon aura de pintade.
Ça tu l'as dit, cousin, on se structure dans le maintien. On écrit, on gueule et on rappe comme des chiens. On se chamaille comme des teckels qui se taquinent pour la pâtée. Pour ta pâtée, je t'apostrophe en te foutant la pâtée. Et je traque de ma ville sous les néons lumineux. Je m'immisce dans la mise, une capuche sur les cheveux. Un cheval sous le capot, un posca dans la chapeau. Un chakra de chamallow, un lavago dans ton ghetto.
La moustache tombante, droit dans mes tombes. J'écrase les fiantes et te nique au ping-pong. J'ai un service redoutable, aura du filet. La babale rebondit, tu n'as vu que son ombre.
Il fait gris, je m'ennuie, je
je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit et j'ai froid. Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit et j'ai froid.
Un parfum de navet envahit le navire. L'équipage au complet se réunit sur la place. On met les pauvres devant, habitués au désir. Et on applaudit bien fort l'ampleur du désastre.
Il fait gris, je m'ennuie, je m'occupe de mon foie. Il fait froid, je suis seul, il fait nuit et j'ai froid. Ouais, toujours pareil, je trinque avec mon ordi. Je complexe et compresse, logiciel Audacity. Il fait nuit, il fait froid.
Logiciel Audacity.
Je complexe et compresse. Logiciel Audacity.
Logiciel Audacity. Logiciel Audacity.
Trop rare pour les lyrics qui sont lourds les suggestions. Je crains qu'on ait fait le tour de la question.